un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Bienvenue dans Biotope, un regard, comme le dit si bien ce générique, sur la construction d'un éco-territoire en direct sur Erdiwa, notre radio amie installée à Die, et Radio Saint-Ferréol pour échanger autour du développement durable, vous rapporter les initiatives prises par les collectivités, associations, entreprises et citoyens qui y participent. Un projet est durable s'il est construit de manière transversale, paraît-il, et s'il est porteur de progrès économiques, sociaux et environnementaux. Qu'en est-il du bio dans la restauration collective ? Projet porteur de progrès, rêve ou réalité ? Vous l'avez compris, chers amis, cette 7e édition de Biotope vous parlera aujourd'hui de restauration collective, de bonne et de mauvaise bouffe, et vous donne une fois de plus l'occasion de nous appeler en direct au 04 75 40 62 49, pour poser une question à nos invités que je vous présente tout de suite. Laurence Traversier, diététicienne que j'ai eu l'occasion donc de rencontrer sur la construction de cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Alors diététicienne, mais pas que.
Pas que.
Vous avez travaillé sur une plateforme, je crois, de produits bio.
J'ai travaillé sur une plateforme de produits bio qui est basée sur Livron pour accompagner justement les collectivités à intégrer du bio dans les repas de tous les jours.
Et alors, c'est la première impression pour cette montagne, on va dire, c'est plutôt facile ou plutôt compliqué ?
Je dirais ni facile ni compliqué, c'est de l'énergie, c'est surtout motiver toute une équipe, en fait, pour aller dans la même direction, quoi. Et comprendre les enjeux, justement, d'une alimentation bio pour la santé et pour l'environnement.
Merci. Je continue le petit tour de table. Hugues Vernier, donc pilote du programme agricole BioValley, c'est ça, Hugues ?
En partie parce que c'est aussi ma collègue Julie Portier qui n'est pas là ce soir mais qui assure complètement ce volet-là. Et on travaille un peu en duo donc il n'y a pas de problème.
Voilà, donc vous êtes venu nous présenter un compte-rendu d'études qui a été mené par BioValley sur le territoire.
Oui, ce qu'on peut dire c'est que les élus, c'est une préoccupation qu'ils ont très fortement initiée avec le programme BioValley, et pour ça on a fait tout un travail de prospective et d'état des lieux. Donc on pourra discuter de cet état des lieux et de voir un peu ce qu'on peut faire pour améliorer la situation.
Merci. On continue ce petit tour avec la nouvelle association, je dis nouvelle parce qu'elle est nouvellement installée du côté de Heure, je crois, l'association Court Circuit, représentée par Graham Whittington. Bonjour.
Bonjour.
Je ne me suis pas trompé, vous avez quand même pu ouvrir les cartons, vous avez...
Ça fait deux mois maintenant.
Ça fait deux mois. D'accord. En deux mots, est-ce que vous pourriez nous présenter la mission de Court Circuit ?
La mission annoncée, c'est la reprise en main citoyenne de l'économie alimentaire. Mais le but, c'est d'intervenir sur le terrain auprès des élus, dans les cantines, auprès des familles, notamment auprès des enfants, pour qu'ils réfléchissent sur qu'est-ce que c'est de vivre ici, qu'est-ce que c'est de manger ici, et sur les difficultés parfois de s'alimenter localement. Donc il y a un élément de sensibilisation, d'information, et puis derrière, on travaille avec les cantines, les restaurants et avec les producteurs pour que le local puisse être facilement consommé.
Merci Graham. Et puis je vais essayer de pas me tromper dans votre titre, cher Jean-Claude Bondaz. Donc
parent.
Ouais, parent. C'est plus simple. Représentant donc l'AFCPE aujourd'hui.
Ouais.
Pour tenir un témoignage.
Oui, essentiellement un témoignage, oui. C'est-à-dire qu'effectivement. La cantine, c'est un facteur, c'est un sujet important pour les parents. C'est sûrement l'un des sujets qui mobilise le plus et qui fait débat le plus, même si à l'école, il y a d'autres problèmes. Mais c'est quelque chose qui... Parce que je pense que ça touche aussi un affect. Enfin, il y a quelque chose qui est important dans la cantine et les parents sont toujours très motivés et très, très intéressés sur ce sujet.
Merci. Donc au cours de cette émission qui sera dirigée d'une main de maître comme d'habitude par Julien et son stagiaire Daniel.
Bonjour à tous.
Nous essaierons de cerner dans le peu de temps qui nous est imparti les différents regards de nos invités sur la restauration collective. On tâchera de vous présenter la synthèse de cette étude conduite par BioValley. On partira en reportage, si vous le voulez bien, sur Montoison qui élabore depuis quelque temps une cuisine donc en mutation et en action, avec trois élus qui nous parleront un petit peu de ce projet, donc Michel Chollot, Solange Grandjean et Jean-Marc Bouvier. Un petit retour donc de nos invités par rapport à ce reportage, bien sûr quelques pauses musicales, un deuxième reportage, c'était une interview téléphonique qui a été conduite avec le Martouret, un centre d'accueil, je crois, propriété de la communauté de communes du Diois, et voilà, sa directrice Patricia Vertagnan et son administratrice Bénédicte Garcia nous en parle. Biotope donc se penche sur nos chères cantines parce que c'est devenu la préoccupation première de notre département, paraît-il. Donc tout vous amène à Biotope pour témoigner, donner votre avis ou poser une question à nos invités au 04 75 40 62 49. Biotope vous ouvre les ondes.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Alors Laurence Traversy, nous allons entamer cette émission pour connaître un petit peu votre regard, vous, sur ce qui s'est fait en restauration collective et voilà ce qui se fait encore aujourd'hui.
Alors je vais peut-être plutôt vous parler de ce que j'ai rencontré comme difficulté, parce que pour celles qui marchent bien, je pense que tant mieux et qu'il y en ait de plus en plus. Mais c'est vrai que les difficultés que j'ai rencontrées par rapport à la mise en place des produits bio... c'est que dans plusieurs établissements, en fait, ça a été un petit peu imposé par rapport aux 20% de produits bio pour 2012. Et du coup, il y a des fois un manque d'informations auprès des cuisiniers sur l'intérêt, et c'est surtout comment les accompagner à intégrer des produits bio sans surcoût et trouver un approvisionnement qui soit adapté et adéquat.
Alors là, on parle d'un secteur où ce sont encore les communes qui ont à charge la cantine, qu'elle soit scolaire, parce qu'il y a différents publics qui profitent de ces cantines, les personnes âgées, les jeunes.
Oui, tout à fait, vous avez raison de spécifier, parce que les cantines pour qui la restauration va être collective, mais gérée par des grandes sociétés, c'est sûr que c'est différent, parce qu'il y a du coup un accompagnement sûrement un peu plus évolué, parce qu'il y a... Il y a toute une équipe derrière, quoi.
Elles aussi sont soumises à ces 20%.
Oui, tout à fait. Oui. J'ai remarqué aussi souvent que dans les cuisines, en fait, il y a souvent un manque d'effectifs, en fait, que ce soit dans le service pour pouvoir communiquer, parce que les enfants, les convives ont besoin de savoir aussi qu'est-ce qu'on leur met dans leur assiette. Et voilà, des fois, il y avait un manque, en fait, de communication et de ton pour expliquer aux enfants l'origine des produits et la différence, en fait, entre un produit bio et un produit qui est conventionnel. J'ai remarqué aussi qu'il y a aussi des difficultés par rapport, en fait, aux appels d'offres, à l'approvisionnement. C'est que, par exemple, dans la Drôme, il y a eu une appel d'offres pour les produits bio. Et du coup, les établissements scolaires sont, en fait, obligés d'acheter... à une coopérative. Et du coup, on a donc la coopérative est malheureusement basée dans le 84 pour l'année scolaire qui vient de s'écouler. Donc du coup, les établissements n'ont pas pu prendre en direct au niveau des productions locales de la Drôme. Donc ça a été un petit peu dommage pour développer la bio dans la Drôme. Donc j'espère que pour l'année à venir, ce sera différent.
Alors on va y revenir, mais a priori, est-ce que globalement, en tout cas ceux qui se sont penchés un peu sur le sujet, il y a suffisamment de producteurs pour fournir des produits à de la cantine, à de la restauration collective?
Alors moi je veux bien répondre en tant que représentant des collectivités. L'étude qu'on a faite sur le secteur montre que justement la Drôme, on appelle toujours la Drôme une petite France, et BioValley, c'est encore une petite Drôme. Ça veut dire que quasiment on peut quasiment tout faire, toutes les productions sur notre territoire, et c'est une réalité. et que sur certaines productions, de toute façon, on peut tout faire. Donc, on produit plus qu'on ne consomme. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. Et sur certaines productions, comme les fruits, on produit 40 fois plus que ce qu'on consomme. Sur les légumes, on doit être à 5 ou 6 fois plus. Et de toute façon, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en termes de quantité. Là où il y a un problème d'organisation, c'est ce que tu dis, Laurence, c'est vraiment de la mise en réseau et de la mise en organisation de l'offre et de la demande. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une cantine et qui veut s'approvisionner en produits bio, il faut qu'il passe 10 coups de téléphone parce qu'il y en a un qui va livrer le fromage, l'autre les légumes, l'autre les fruits, l'autre les pommes de terre. Et avec chacun des horaires et avec une qualité différente et une facturation différente. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est une organisation en termes de logistique. Mais ce n'est pas que ça qui fera la limite, mais je pense qu'on va l'aborder par la suite.
Graham, vous voulez rebondir par rapport à ça ?
Mais il y a une chose qui est vraiment importante. Moi, j'étais président d'une restauration scolaire près de Montélimar pendant 9 ans. Et le plus difficile pour quelqu'un qui prépare son repas pour des enfants à midi, c'est la fiabilité. Et nous, on a mis en place de petits réseaux informels avec des producteurs qui nous appelaient très gentiment le lundi matin pour dire « Oh, mais j'ai tellement bien vendu sur le marché de Cré samedi que j'ai plus de salade. » Et donc, c'est vraiment important pour les cantines d'être sûr d'être livré ce qu'ils ont commandé.
Oui, bien sûr, un cuisinier ne peut pas improviser le lundi matin et changer tous ses menus.
Donc, même comme dit Hugues, si la production est là, mais il faut organiser l'offre pour pouvoir... quoi qu'il en soit, livré.
D'accord. On va peut-être partir en reportage. Un reportage qui a été réalisé la semaine dernière auprès de la cantine de Montoison, qui, comme je le disais dans la présentation, est une cantine en pleine mutation. Hugues, vous avez dû suivre un petit peu le projet, puisque ça fait déjà quelques temps hein, qu'ils ont réfléchi. J'imagine que c'est quand même pour une commune qui reprend les rênes d'une cantine, un gros engagement tant au niveau financier qu'au niveau politique.
Oui, c'est l'expérience de Montoison est exemplaire parce que c'est vraiment pour le coup une démarche politique. Hein. C'est au-delà de la simple volonté de faire des produits pour la cantine, c'est s'approvisionner localement, travailler avec les producteurs dans un rayon de 5 ou 10 km, mais c'est aussi éplucher les légumes, enfin tout un travail d'organisation. Et là, je dirais au niveau de la communauté de communes, ce côté exemplaire nous a permis de mettre des moyens pour les accompagner parce qu'on s'aperçoit que les gens n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas où s'approvisionner, ils ne savent pas comment faire la sensibilisation, parce que faire des repas, c'est sensibiliser les jeunes à manger différemment, parce qu'on mange différemment que si c'est du surgelé ou si c'est des plats cuisinés. Il y a tout plein de choses à imaginer. Et donc, il y a eu tout un accompagnement sur cette commune. Et pour ça, c'est l'expérience de Montoison, c'est une référence qu'on aimerait bien démultiplier sur plein d'autres communes. Et c'est le cas. Actuellement, il y a d'autres communes qui s'y mettent.
On revient tout de suite après.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Il devenait nécessaire d'agrandir les locaux et également de refaire une cuisine qui soit aux normes actuelles, qui sont vraiment drastiques. À l'occasion de ce projet, il a été constitué un groupe de travail qui était composé de quelques conseillers municipaux et également de représentants de l'association de parents. Ce groupe avait pour mission en fait d'organiser la transition du service pendant que les locaux seraient disponibles au service. Et puis, parallèlement, l'association se trouvait confrontée depuis longtemps et de façon croissante à des difficultés qui étaient dues à la masse salariale, au coût croissant de l'approvisionnement, qui imposait de fait un recours de plus en plus important à des produits préparés au surgelé. Donc ces difficultés devenant récurrentes et de plus en plus importantes, la reprise en gestion municipale, on peut dire, c'est imposé. Et elle a été élaborée au fil des mois, en partenariat entre les membres de l'association et la commune. Et donc elle s'est faite. Et les personnels salariés de l'association ont tous été intégrés dans le personnel communal.
Donc la salle de restaurant a été installée dans des locaux proches de l'école. Et nous avons fait appel à un prestataire qui nous livrait les repas à domicile pendant la construction de notre nouvelle cantine, entre guillemets, parce que maintenant on appelle ça notre restaurant scolaire.
Et il s'avère que maintenant, le prix qui est payé par les familles est le même que celui qu'il y a 3 ans. Il n'y a pas eu de surcoût du tout. C'est dans la suite, en fait, que nous nous sommes tournés vers la CCVD. Quand c'est un choix qui avait déjà été manifesté par le conseil municipal, c'était le choix d'introduire de plus en plus de produits locaux en circuit court, et puis progressivement d'introduire des produits bio. Progressivement, justement, parce que pour éviter d'éventuels surcoûts, y aller en douceur. Hein. Et là, il en a été parlé donc à la CCVD, et nous avons obtenu un écho favorable. Et il a été aussi fait le constat que nous étions en phase avec les enjeux de BioValley. Voilà. Et à partir de là, nous avons obtenu un soutien financier et en ressources humaines qui nous permet d'avoir la collaboration de la communauté de communes, des techniciens du pôle agricole et puis également la collaboration de Delphine du Cœur Joli qui est dédiée à notre projet et qui s'occupe donc de mettre en lien notre cuisinier avec des producteurs locaux et bio. C'est en train de se construire.
Biotop.
Voilà, donc là, on a pu assister à effectivement au témoignage donc de deux élus, d'ailleurs, que je remercie d'avoir participé, parce qu'elles n'étaient pas chaudes au départ pour témoigner de ce beau projet. Malgré tout, donc vous avez entendu les voix de Michel Cholot et de Solange Grandjon. Voilà, cette commune Montoison n'a pas vraiment eu le choix, en fait, de reprendre la cuisine en main sur sa collectivité. Elle a dû faire, parce que l'association de parents qui tenait l'ancienne association était prête à déposer le bilan, je crois, Hugues, c'est ça, hein.
Oui, je crois qu'on était dans cette situation, mais ça montre bien aussi qu'il y a eu une convergence entre les parents et les élus et la cantine, et c'est-à-dire les personnes qui ont préparé à manger. C'est-à-dire qu'un projet comme ça, il faut que tout le monde y mette du sien, et c'est le cas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le début de quelque chose qui est en phase et qui marche bien.
Ouais. Mais alors du coup, c'est tombé quand même pile poil avec le questionnement que se posait la BioValley par rapport à ces deux études qui ont été réalisées. Vous aviez déjà un petit peu différents plans d'action et vous avez pu proposer un plan d'action à cette commune un peu, on va dire, qui était un peu en état d'urgence.
Alors, oui, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que l'idée de travailler sur BioValley, sur la restauration collective, les enjeux pour BioValley, c'était avoir 80% de produits locaux dans les restaurations collectives. Donc, c'est quelque chose d'énorme, parce qu'aujourd'hui, on est très, très peu. Donc, il y a très peu d'approvisionnement local, même s'il y a une volonté. Et donc, on a commencé par un état des lieux, et je peux vous dire quelques éléments sur cet état des lieux.
Oui, oui.
Donc, en gros, la restauration hors foyer ou la restauration collective, ça représente 1 590 000 repas par an, hein, sur l'ensemble de la vallée. Et par rapport à ça, on s'aperçoit parce que...
Donc là, ça concerne les hôpitaux, ça concerne les écoles,
et ben voilà,
concerne...
Ça représente en gros 40% de tout ce qui est médico-sociaux. C'est-à-dire que...
C'est une grosse part. Hein,
voilà, c'est quasiment un peu moins que la moitié. Après, tout ce qui est collège, scolaire, hors collège, c'est-à-dire petite école, ça représente 21%. Tout ce qui est collège, lycée, ACAR, c'est-à-dire 25%, et centre de vacances, 10%. Donc on s'aperçoit que les chiffres sont quand même relativement importants, hein, par rapport à l'enjeu. Et par rapport à ça aussi, il y avait un autre élément qui paraissait aussi intéressant, c'est de savoir comment s'approvisionner ces restaurants, ou enfin ces restaurations collectives. Et on s'aperçoit que quasiment 50% s'approvisionnent, ont une cantine sur place. Mais ça veut dire aussi que 50% ne font pas la cantine chez eux. Donc sur les 50% où il n'y a pas de cantine dans l'établissement, on s'aperçoit qu'il y en a 5% qui travaillent avec un restaurant ou un traiteur. Il y en a un quart, c'est-à-dire 25% qui travaillent avec la restauration collective, des sociétés privées, du style Avenance ou autre. On ne peut pas faire de publicité.
Il faut en dire un autre alors, parce que sinon c'est une publicité.
Ouais, c'est bon.
Ça,
hein.
Ça gère.
Mais au moins, c'est clair. Et puis, il y a aussi un réseau de cantines, c'est-à-dire des cantines qui approvisionnent d'autres établissements. Et donc là, ça représente à peu près 20%. Donc on voit aussi que c'est quand même quelque chose qui est non négligeable et qu'en termes de quantité, ça représente beaucoup de repas. Mais en termes de quantité d'organisation du produit, ça représente quasiment une ferme de 50 hectares. Si, une ferme de 50 hectares...
À l'échelle de la Drôme.
À l'échelle de la vallée de la Drôme, permettrait d'approvisionner à peu près tout ce qui est restauration hors foyer. Ce qui est a priori pas énorme, mais c'est déjà un premier plan pour justement sensibiliser. Et un des enjeux, c'est la sensibilisation pour que on passe de la cantine au privé, c'est-à-dire que les familles s'approvisionnent avec des produits locaux et après tout le monde s'approvisionne. Et que l'aspect sensibilisation auprès des jeunes enfants est un élément sur lequel on veut vraiment travailler. Donc l'histoire de Montoison, pour revenir à Montoison, c'est vraiment le cas d'école où on commence par là, puis on va travailler avec toutes les autres communes. Actuellement, il y a Saillant, il y a d'autres communes
qui commencent à se manifester.
Il y a Heure, il y a d'autres parents d'élèves ou d'autres communes qui nous demandent pour qu'on puisse intervenir.
Donc une belle lancée.
Et en parallèle, on travaille aussi avec l'association Circuit Court et Agricourt pour tout ce qui est approvisionnement, avec la sensibilisation. Enfin, il y a tout un programme d'accompagnement.
Alors, Graham, justement, vous allez peut-être pouvoir nous parler de ce programme d'accompagnement.
C'est sur le territoire ici, c'est un programme qui est prévu pour 2012, mais c'est sur le modèle de ce qu'on fait déjà dans la vallée du Roubion. Où ce qui se passe souvent, c'est donc le cas de Montoison, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il faut vraiment une volonté politique forte pour ne pas prendre le chemin facile, ce qui est de signer un chèque par mois pour un fournisseur plutôt industriel. Et donc là, nous, on intervient au niveau de communes où souvent les parents perdent d'énergie, où il y a un cuisinier, une cuisinière qui part à la retraite, qui avait un peu tout le savoir-faire. On intervient pour mobiliser toutes les parties prenantes. Donc les élus, les parents, les enfants, les salariés, les enseignants, parce qu'il y a un lien important qu'il ne faut pas négliger entre la cantine qui fait partie de l'école et ce qui se passe en classe. Il y a énormément de façons de travailler ensemble. Donc c'est vraiment de mobiliser la communauté pour réfléchir sur l'importance de l'alimentation, l'importance du goût. Et il y a tout un tas de liens pédagogiques par rapport à l'environnement, par rapport au kilomètre alimentaire, par rapport au social, par rapport à garder l'argent dans l'économie locale, que des enfants en CE et CM peuvent très bien comprendre si c'est présenté lié directement à ce qu'ils mangent dans leur cantine.
Bon, alors on voit que vous êtes vraiment des convaincus du développement durable, ça à n'en point douter. Par contre, il y a encore beaucoup de communes qui ne sont pas encore réellement convaincues, qui traitent encore, comme disait Hugues, il y a 50% des gens concernés qui passent encore par de l'agro-industriel.
Tout à fait. Il faut du temps d'abord parce qu'il y a des contrats qui ont une certaine durée, puis parce que les parents n'ont pas nécessairement encore compris le rôle qu'ils peuvent avoir associativement ou pour aller voir leurs élus pour dire ça pour nous c'est un sujet important par rapport à la commune. Donc à partir du moment où, au niveau d'une élection municipale, l'enjeu c'est la cantine, là on va voir bouger les choses.
On verra tout de suite après cette petite pause musicale que Julien va nous servir sur un plateau, puis la suite du reportage de la commune de Montoison. Un autre son apporté par Jean-Claude Bondaz, donc représentant de la FCPE, qui lui aimerait bien voir bouger un petit peu les lignes de sa commune quant à la cantine scolaire. Mais tout de suite, partons un peu en musique.
I like the way you chew your gum. I like the look in your eyes. I'm glad you sat next to me. I like the way you move your hands. I like the corners of your mouth. I like the sound of your laugh. I like the way your leg feels when it brushes against my lap. I wonder what you would do. I wonder what you would do. Wonder what you would do to me. Oh, I wonder what you would do.
afternoon of fantasies, of the many possibilities that could start between you and me, young man. Could just sit and talk. I'm sure that we would hit it off, young man. I wonder what you would do. I wonder what you would do. I wonder what you would do. Would do to me.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Il est très important pour nous d'associer à ces actions qu'on met en place, là aussi bien les produits locaux et bio que l'animation autour des repas. On tient à le faire en association avec les parents, que ce soit les délégués élus par les écoles, que ce soit une association de parents qui vient de se créer l'année dernière, également les enfants aussi.
Alors nous accueillons donc à peu près tous les jours 20 à 25 enfants de maternelle. Ils ont un petit coin réservé à eux dans la salle de restaurant, avec une personne qui s'occupe spécialement d'eux. Et puis en primaire, environ 60 à 70. Aujourd'hui, à midi, ils étaient 80 au total. Nous avons enfin mis en place maintenant une inscription en ligne. Donc les parents peuvent, s'ils le désirent, s'inscrire sur Internet, soit venir en mairie pour inscrire les enfants, en général à la semaine. Et ils peuvent également payer aussi en ligne. Le repas coûte 3,75 €. Nous avons essayé de maintenir le repas qu'il y avait du temps de l'association. Donc nous y arrivons et pour le moment, il n'y a aucune modification.
Alors quand le conseil municipal a réfléchi, il ne s'est pas prononcé à ce jour pour l'instauration d'un quotient familial, mais ça deviendra peut-être légitime, puisque notre cuisinier cuisine ici. Ça a été une période de transition. Donc en fait, c'est une personne qui savait... C'est un cuisinier de métier, donc il n'y avait pas de souci pour lui pour cuisiner des produits frais. Le choix maintenant étant d'aller vers de plus en plus de produits locaux, il devient nécessaire de l'aider, de l'accompagner. Donc c'est pourquoi Madame Ducœur-Joly, donc, qui est missionnée pour cela, est en train de lui proposer un réseau de producteurs. Mais ça, c'est en cours.
Il y a une demande sur les produits qui est forcément diversifiée, qui porte sur des volumes qui ne sont pas forcément très conséquents. Et pour obtenir en face une offre qui soit en mesure de répondre à cette demande, ça passait par le fait d'aller sur des structures un petit peu plus collectives, un peu plus partagées. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a fait appel effectivement au service de la communauté de communes, de façon à ce qu'ils nous mettent en relation et qu'ils mettent un maximum de communes dans notre situation en relation avec les producteurs locaux.
Nous avons une réflexion sur les déchets des repas. Donc on voudrait un petit peu sensibiliser les enfants à leur assiette, leur faire prendre un petit peu plus conscience de ce qu'ils ont dans leur assiette, et puis essayer de limiter un petit peu les déchets qu'ils font.
Alors toujours dans le cadre de la gestion des déchets, en travaillant avec la communauté de communes, elle a pris pour option de s'associer à Unicité, qui gère des jeunes qui, dans le cadre de leur service civique, sont mis à disposition de collectivités. En l'occurrence, on va assurer une formation à ces jeunes-là sur le thème du tri, et ils viendront participer dans les collectivités au niveau des restaurants scolaires, etc., et en particulier au niveau du nôtre. Ils viendront faire des démonstrations de pédagogiques en matière de tri des déchets alimentaires.
Biotop. Biotop.
Voilà donc la fin de ce reportage. Je remercie encore ces trois élus qui se sont prêtés un petit peu à l'exposé de leur expérience qui, on va le dire quand même, hein, est une heureuse expérience. Montoison compte quoi, 2000 habitants, c'est ça?
Oui, oui, à peu près.
C'est ça. Donc,
un peu moins, je crois. Mais...
C'est un beau projet pour une, je dirais, une si petite commune, hein, puisque derrière, ils n'ont pas osé parler des perspectives qui s'ouvraient, mais ils comptaient bien peut-être même rentrer dans la fabrication de repas pour d'autres structures. Voilà. Je voulais donner la parole à Jean-Claude Bondaz, donc représentant l'AFCPE, pour que on puisse avoir aussi un autre visage à cette restauration collective qui peut s'installer sur d'autres communes. Hein. On parlait de 50-50 au niveau des communes. Mmh. Voilà. Quel est un petit peu le vécu
d'un... Alors, le vécu par rapport à ce qu'on entend et par rapport à l'expérience de Montaison qui paraît tout à fait la voie à suivre, où il y a une démarche qui est complète, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur du bio, on est sur du local, on est sur de l'accompagnement des enfants et du confort fourni sur ce temps qui est un temps scolaire. Aujourd'hui, nous, sur la Drôme, enfin sur la Drôme en général et sur les communes, s'il y a ces communes qui sont moteurs, on s'aperçoit que souvent, encore aujourd'hui, la cantine, c'est une charge, considérée comme une charge par les communes, et c'est pour les enfants, souvent, et pour les parents et pour les familles, d'abord un service absolument nécessaire qu'on ne peut pas déroger, ce qui fait que on subit souvent des conditions d'accueil et des conditions de cantine qui ne sont pas idéales. Je crois que ce qui est très important, c'est de dire que le bio et le local, parce que le local est aussi important, si ce n'est plus important que le bio, ne peut avoir sa justification que si on a une pensée globale et si on pense d'abord au confort de l'enfant et à l'accueil. C'est-à-dire que l'aspect pédagogique, l'aspect accompagnement, il est très important. Et aujourd'hui, on constate que dans beaucoup de communes, notamment dans quelques grandes de la Vallée de la Drôme et notamment sur Cré, l'accompagnement et la qualification du personnel d'accompagnement, c'est vraiment une grosse faiblesse. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et puis nous, ce qu'on a constaté, parce que nous, on a essayé aussi sur Cré, on a fait une enquête cantine il y a maintenant 2 ans, qui avait montré, entre autres, l'importance, on était assez étonnés. L'importance, il y avait une question sur le bio et sur le local, et je crois qu'on avait un taux de volonté des parents de s'investir, à ce que la mairie s'investisse là-dedans, on était à 77%. Donc c'était vraiment, on n'est plus dans l'optionnel, quoi. Les gens, je pense, ont vraiment cette volonté. Après, ils savent pas comment faire, et je pense que là, il faut les accompagner. Et ce que on s'est aperçu aussi, c'est que sur une commune qui, c'est vrai, n'était pas motrice. Je pense que le travail qui a été fait un peu sous la pression des parents et sous la pression des habitants, je dirais. Moi, j'ai été assez étonné aussi du manque de formation quand il s'agit des appels d'offres. C'est-à-dire que le personnel municipal reste sur une structure appel d'offres au moins 10 ans et qu'ils ne savent pas construire un appel d'offres sur le mieux, sur la qualité, et que l'idée de l'appel d'offres, c'est toujours le moins cher. Et donc il faut vraiment, je pense que là on change d'idée et que les esprits s'ouvrent sur quelque chose de différent. Mais donc voilà, je crois que les parents sont vraiment favorables et souhaitent vraiment cette amélioration de la qualité dans les assiettes, dans l'accompagnement, et que par contre c'est parfois difficile parce que on n'a pas nous non plus les interlocuteurs qui sont bien formés obligatoirement, les municipaux c'est nos premiers interlocuteurs, mais aussi peut-être
les réseaux locaux. Et bon, voilà, il y a tout ça qui rend aujourd'hui, même s'il y a une volonté, même s'il y a une démarche qui est très forte sur la Drôme, qui rend le bio, moi je pense qu'il faut sortir le bio du 20% obligatoire du Grenelle de l'environnement, qui est généralement du bio sous-traité à des grosses boîtes, ce qui fait qu'on a du bio espagnol ou du bio italien.
Du bio qui n'est pas bio, quoi.
Enfin, voilà, qui est, voilà, en tout cas qui n'est pas local et qui n'est peut-être pas le plus développement durable qui existe. Et voilà. Et ça, je crois que les parents y sont attachés, et parce qu'ils sont attachés à la cantine. Mais il y a encore, dans notre vécu de parents, il y a encore une grosse marge de manœuvre.
Alors, vous, Laurence Traversier, vous avez certainement, vous êtes penché longuement, puisque vous avez fait des études de diététicienne, sur un petit peu le vécu de la restauration collective, son histoire. Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, toutes les communes, grossièrement, avaient leur cantine pour pourvoir l'hospice, les écoles, les hôpitaux ou autres. Et puis, tout à coup, ça a disparu. On a tout donné aux industriels. Ils avaient les clés, un petit peu, pour mettre en place de la restauration collective. C'est un peu ça, l'histoire, ou je me trompe ?
Oui. Moi, j'avais plutôt envie de rebondir sur la différence entre produits bio, produits locaux, parce que j'entends souvent local, bio, mais c'est important de faire la différence, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont différentes, et c'est pas parce que c'est local que c'est bio, et bien c'est sûr. Important d'expliquer aussi aux enfants et aux parents la différence entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de mélange par rapport à ça.
Mais ils le voient souvent au niveau du prix.
Voilà. Et du coup, c'est justement, c'est ça le problème, c'est de croire qu'il y a que le prix qui est différent, quoi. Et c'est un mode de production qui est différent. Il y a un respect de la terre et des animaux, par exemple, qui est différent. Et ça, je trouve que c'est important de le spécifier, parce que du coup, on se focalise peut-être trop sur le prix. C'est sûr que c'est hyper important, surtout en collectivité. Mais voilà, de quand même faire la différence que on traite pas les animaux de la même manière par rapport aux abattages, tout ça, et que ça peut être des fois produit localement. Je veux dire, on est quand même on a des poulaillers où c'est des aberrations, et ça a beau être à côté de chez nous, voilà, c'est pareil, on voit des champs qui sont vraiment traités encore, et même en agriculture, arboriculture, des fruits qui sont très traités, et ça c'est quand même important, parce que de bien faire la différence, parce qu'après, ben, c'est les nappes phréatiques, c'est l'eau qui est polluée, et voilà, ça doit être local, enfin, pour moi, c'était important de juste refaire la différence entre les deux, quand même.
Mais j'imagine quand même que, vu que la restauration collective avance essentiellement aussi grâce aux politiques, ils sont aussi là pour donner des lignes de conduite à tous ces producteurs, dire cessez de faire ci, cessez de faire ça, parce que sinon vous ne rentrerez pas dans le plan de financement ou dans le marché qu'on propose d'élaborer.
C'est pour ça que je pense que le rôle aussi des diététiciennes, c'est de justement pouvoir intervenir dans les établissements auprès des parents, des collectivités, pour aussi informer. On peut avoir aussi une alimentation bio et pas équilibrée, quoi. Mm-hmm. Et c'est pas parce que c'est bio que c'est équilibré, et vice versa, quoi. Et ça aussi, c'est important de revoir les menus des collectivités en même temps qu'on intègre du bio, quoi.
Oui, ça a d'autant plus son importance que c'est ce qui définit réellement le prix du repas en fin de ligne. Donc, voilà. Si on met de la viande à tous les repas,
tout à fait.
Forcément, le coût du ticket, si tout est en bio, le coût du ticket est normalement tourne autour de 6 euros, je crois.
Ouais. Et puis, j'ai entendu, donc, à Montoison, ils font la gestion des déchets. Ça, c'est très bien aussi, quoi, de voir justement comment on peut diminuer le coût. Puis j'ai remarqué aussi dans les collectivités, les emballages par rapport à l'agriculture biologique étant différents, les enfants des fois reconnaissent pas les produits, et du coup ils vont pas être tentés à privilégier par exemple un yaourt bio parce qu'ils ont pas l'habitude de cet emballage là. Donc c'est important, la communication, pour favoriser les enfants aussi à choisir les produits bio qu'on leur présente, quoi.
Hugues, juste par rapport à ça, je crois qu'il y a un point qui est élément, c'est sur les déchets. Je crois qu'il y a une étude qui montrait qu'il y avait quasiment 30% de déchets en restauration classique. Alors que quand c'est des repas bio ou locaux, ou avec une sensibilisation des consommateurs, des cantines, et il y a vraiment une responsabilisation des gens qui mangent, et donc on perd ces 30%, c'est-à-dire qu'on a quasiment plus de déchets, donc on gagne déjà 30% du prix. Et puis un autre point qui est aussi intéressant, c'est que on entend souvent, alors très très souvent, c'est de dire oui, mais bio, ce serait beaucoup plus cher. Sauf que quand on diminue les déchets, quand on retravaille sur les menus avec les diététiciennes, avec des gens un peu spécialistes, on s'aperçoit qu'on mange un petit peu différemment, on mange un petit peu moins de viande, parce qu'aujourd'hui, toutes les études montrent qu'on mange beaucoup trop de viande, donc on mange la viande nécessaire, mais pas plus, et qu'on travaille sur des nouvelles recettes qui permettent d'avoir des repas qui sont au même prix. Et donc, le fait de dire « c'est des repas bio et locaux, mais c'est beaucoup trop cher », je dirais, là, l'expérience de Graham et de Laurence, c'est là où ils interviennent et ils prennent toute leur légitimité à justifier ça et à accompagner cette réflexion. Parce que c'est le facteur de blocage, le prix. Un des facteurs de blocage. Dans l'étude, on montrait, il y avait trois facteurs de blocage. Il y avait l'approvisionnement, difficulté, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait le prix et puis le temps de travail. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec les produits locaux, eh ben, la cantinière, enfin les cuisiniers, eh ben, ils sont obligés de travailler un peu plus. Sauf que après, on va peut-être s'organiser pour avoir des produits qui sont déjà épluchés, tout ça. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille.
Graham, est-ce qu'il est possible de passer d'un repas bio à 6 euros à un repas bio à 3 euros?
C'est la question du jour.
Oui. Il y a une chose qui vient d'être dit que je vais répondre tout à l'heure. Parce que l'essentiel, c'est dans les coûts de ces repas, c'est les protéines animales. Et moi, je vois sur les restaurations scolaires que je connais bien que à partir du moment où on communique avec les familles pour que c'est pas nécessaire d'avoir viande tous les jours. On voit très vite que dans les cantines où mangent mes enfants, le plat préféré, c'est le gratin de légumes. Et il a fallu simplement 6 mois et des produits bio bien préparés, pas trop cuits, pour transformer tout ça. Et que l'autre plat que les enfants adorent, c'est potage. Et quand on l'a introduit au début, on s'est dit, oulalala, ça va être vraiment comme sous l'Ancien Régime, quoi. Et en fait, c'est très économique pour une cantine, parce que quand on travaille en vrac plutôt qu'avec des surgelés, on utilise 3 kg de pommes de terre. On ne découpe pas 5 kg d'épinards. Donc, en fin de semaine, il y a plein de petites choses qui restent. Et c'est là, ça veut dire que la soupe est différente chaque semaine. Donc, tout est dans la mobilisation des salariés. Pour moi, c'est la clé du sujet. Et par rapport aux déchets, je pense que c'est pas en fait le bio en soi qui réduit les déchets. C'est que de travailler en cuisine avec des produits de qualité, c'est beaucoup plus valorisant pour les salariés, même si ça fait davantage de travail, parce que voilà, c'est plus difficile que ouvrir les paquets. Et cette valorisation du travail se transfère aussi dans la salle où il y a les enfants.
Quand c'est bon, les enfants mangent, hein, quel que ce soit. S'il y a du déchet, c'est que aujourd'hui, la qualité des repas n'est pas bonne, quoi. Les enfants ne sont pas formatés au steak haché frites, c'est
tout
pas
à fait.
Vrai, ça.
Et l'adulte donne des signaux aux enfants. L'adulte qui est fier de son travail. Moi, j'ai vu dans des cantines où on dit il y a 50% de déchets et on voit quelqu'un qui est malheureux en cuisine vient, balance sur la table et disparaît derrière. Parce qu'en fait, cette personne a presque honte de ce qui est dans l'assiette.
D'où l'importance de l'accompagnement.
Tout
des
à fait.
Enfants. Ça, c'est vraiment un aspect qui est très important.
Alors là, on va partir visiter pas un cas d'école, parce que le Martouret est une structure donc qui sert de lieu d'accueil, de centre de vacances, qui accueille près de 400 personnes en restauration collective. Donc ils savent de quoi ils parlent depuis 5 ans. Et on les retrouve tout de suite après une petite pause musicale.
Is Odell, and I am a deep sea diver, though I don't get my thrills from the catfish in China. I've had 1,000 dreams, so many I have dived on, but still I'm all alone. Can't you see? It's possible and so probable. And by the way, it must be. I'm an open heart surgeon.
Le Martouret fonctionne avec une association, loi 1901, depuis 2005. Donc on avait à l'époque mis en place des principes et de fonctionnement et de déontologie par rapport à ce que l'on souhaitait au niveau du Martouret. Donc en sachant que la chose qui nous intéresse aujourd'hui et qui pour nous est principale et primordiale, c'est vraiment l'ancrage dans le territoire et bien sûr la qualité de l'accueil. Et avec ça, on décline un certain nombre de choses et de fonctionnements très concrets au niveau et de l'accueil et de la restauration.
En fait. Oui, on a effectivement un gros budget alimentaire, hein, puisque nous, on tourne autour de 900 000 euros rien que pour le budget alimentaire sur l'ensemble de la structure. Et effectivement, ce sont des quantités, surtout l'été, qui sont très très importantes, quoi. Hein. Donc là, maintenant, depuis quelques temps, on a réussi à mettre en place un réseau d'approvisionnement qui nous permet d'arriver à satisfaire nos besoins. La volonté, c'était de faire fonctionner le local. Donc sur le territoire, on n'a pas que des agriculteurs bio, on a des agriculteurs qui travaillent avec de l'agriculture raisonnée. La première incidence, c'est l'incidence humaine, hein, parce que ça nous demande beaucoup plus de travail. Aujourd'hui, il y a quelques années, quand on voulait faire une commande, on prenait un téléphone, on avait notre fournisseur au bout du téléphone, on passait la commande et c'était terminé. Là, c'est complètement différent. On doit, en fonction des possibilités de chaque fournisseur, essayer de voir si on a la quantité nécessaire. Aujourd'hui, il nous arrive de prendre 3 agneaux chez un éleveur, 2 autres ailleurs, parce qu'ils n'ont pas la quantité nécessaire chez une seule personne. Donc on doit jongler, on a mis en place un gros répertoire des possibilités sur le territoire en fonction des produits et des producteurs pour nous permettre effectivement d'arriver à la quantité nécessaire. La principale difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sait par exemple qu'un maraîcher, c'est à nous de s'adapter. Aujourd'hui, c'est le maraîcher qui nous appelle, qui nous dit, ben voilà, nous on a la production de salade ou de courgettes supplémentaires, est-ce que ça vous convient? Donc nous on rechange le menu, on s'adapte à ce problème-là. Aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on soit plus nombreux en collectif à passer à cette démarche, ce qui permettrait aux agriculteurs, aux maraîchers, de pouvoir penser à une production supplémentaire. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas penser à produire, puisque notre activité est assez... elle fluctue. On peut passer d'un mois à 200, d'un autre mois à 300, comme d'un mois à 50. Si on était plusieurs, on arriverait à créer une activité linéaire pour les maraîchers et on serait complémentaires. Aujourd'hui, effectivement, au travers d'identités comme par exemple la Carline, on pourrait espérer qu'un jour, il y ait une plateforme plus globale qui permettrait aux collectivités comme nous, effectivement, d'avoir un produit issu de différents maraîchers, et pas d'un seul, mais qui permettrait effectivement d'avoir tout localisé au même endroit.
Une cantine scolaire aujourd'hui, c'est 3 euros par personne, vous voyez, pour un repas. Donc nous, on est quand même presque pratiquement le double. Hein. C'est sûr que de rechercher la qualité au niveau des produits, ça a quand même un coût supplémentaire, oui.
C'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de créer une centrale de restauration collective, on ne peut pas, nous, chaque collectivité, porter ce projet-là. Il faut qu'à un moment, ce soit des élus, peut-être, ou des services publics qui se mettent à réfléchir ensemble. Puisque là, par exemple, sur le territoire d'Ivoire, ça pourrait concerner l'hôpital, les écoles, le collège. Aujourd'hui, qui pourrait porter ce projet-là, si ce n'est les élus du territoire, quoi, hein, ou du moins les techniciens du territoire. Si on veut arriver à se mutualiser, on ne peut pas le faire sans qu'il y ait un portage politique. Il y a des enquêtes qui ont été faites à travers la Biovallée, justement, sur les besoins. Aujourd'hui, ce sont d'abord des études, on ne sait pas ce que ça peut donner par la suite, hein, mais effectivement, il y a eu des enquêtes qui ont tourné sur le territoire pour savoir quels étaient les besoins. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir passer de l'étude à la mise en place. Et est-ce que c'est Blue-Vallée? Est-ce que c'est lié à chaque territoire aussi? Et ça, c'est un peu plus complexe, je pense.
Oui, non, mais je pense que si vous voulez, les élus, par exemple, souhaitent fortement et que le Martouret soit un peu la vitrine, enfin, entre autres, vitrine de Blue-Vallée. Bon, ok, je pense qu'on est complètement dans cette démarche. Mais bon, nous, ce qu'on attend aussi, c'est du concret par rapport à ça et un engagement, oui, un engagement réel, quoi.
Ah, les personnes de dit, hein, sont toujours très... Elles n'hésitent pas à dire les choses. Et c'est pour ça qu'on les adore. Donc, on voit effectivement le témoignage. Et d'ailleurs, je veux encore une fois les remercier. Donc, ces deux personnes, la directrice de cette structure, dont je cherche le nom, voilà, Patricia Vartagnan, directrice du Martouret, et une administratrice, Bénédicte Garcia. Merci à vous. Donc, qui mettent en avant, effectivement, l'importance, de faire vivre un territoire grâce à de la restauration collective. Ils peuvent faire vivre plein de monde, donc générer des emplois. Ça a été pensé, ça, Hugues, au niveau du territoire de la Drôme,
de toute façon,
quantité d'emplois générée par ce genre de restauration.
Ah oui, de toute façon, là, il y a des emplois directs et indirects. Hein. Le maintien des agriculteurs, parce qu'en fait, souvent, c'est des petits agriculteurs. Ça permet de mieux vivre et de mieux commercialiser. Dans les cantines, on voit qu'il y a plus d'emplois dans les cantines. Il y a plus il y a vraiment toute une sensibilisation à avoir qui permet de l'emploi. Mais il n'y a pas que l'emploi. Il y a vraiment tout. C'est une évolution de la mentalité qui est vraiment intéressante dans ce cas-là. Et juste pour répondre à la directrice, je crois que par rapport à Biovallée, il y a eu une phase d'étude, mais là, on est vraiment dans la phase concrète. Là, Montoison, c'est vraiment très concret. Agricourt, court-circuit, l'aspect sensibilisation, c'est très, très concret. Et là, on travaille sur aussi un atelier de transformation pour justement proposer aux cantines des produits qui soient déjà un peu pré-transformés, pré-préparés, du style pommes de terre épluchées, des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment des choses hyper concrètes. Après, les circuits courts, on les développe depuis longtemps. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, mais qui est bien soutenu et qui est bien organisé.
Voilà. Bram, je vous ai vu réagir quand, je ne sais plus si la directrice parlait du prix d'un repas, que c'était difficile de faire vraiment moins cher que 6 euros. Moi, quand j'en ai discuté avec elle en off, elle m'a dit que effectivement, ils arrivaient à jongler au niveau des prix des repas, mais c'était au prorata des publics qui allaient les voir. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu ça l'inquiétude, c'est qu'on va servir on sert des repas à 3 euros, il y a déjà des enfants qui ne peuvent pas manger à la cantine à 3 euros. Alors, augmenter le prix, ça veut dire qu'il y aura encore plus d'enfants qui ne mangeront pas à la cantine.
Mon expérience concrète sur une cantine qui fournit 100 repas par jour, c'est que du coût des ingrédients, quand on a commencé vraiment à se fournir sérieusement de saison, locale, bio de préférence, on a réduit le prix, le coût des ingrédients. Avant, c'était 1,53, c'est descendu à 1,20, 1,20 €. Et avec tous les bénéfices derrière liés aux réductions du gaspillage, on a réduit les kilomètres alimentaires de 85%. Donc aussi, en tant que citoyen, c'est pas seulement quel est le coût du repas de mon enfant, c'est aussi, il faut quand même essayer d'avoir en tête que si on peut réduire les transports de façon significative, là aussi, c'est tout un tas de coûts que quelque part, on va payer par la suite.
Alors, faisons un petit état des lieux donc du travail qui reste à faire. Est-ce qu'il y a un travail de mise en place à venir, un travail pour développer l'existant, ou bien est-ce qu'il y a un travail vraiment de recréer quelque chose parce que c'est trop décousu et c'est difficile de partir déjà de l'existant?
Non, moi je pense que l'existant, on a la chance dans Biovallée et dans la vallée de la Drôme d'avoir quasiment toute la motivation des élus, d'avoir des producteurs, on a quasiment tout est là, donc il n'y a plus qu'à mettre en phase. Et justement, on attend beaucoup des parents d'élèves, on attend beaucoup des élus, des cantines, de tout le monde pour aller dans le même sens. On ira dans ce sens-là que si tout le monde y va dans ce sens. Enfin, je crois que là, il y a vraiment une unanimité à travailler dans la même direction, et je pense qu'il y a, ça va prendre du temps. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, quand on travaillait à la maison familiale, on avait fait nos premiers repas bio. Les enfants, ils n'avaient pas dit, ils n'avaient pas mangé, qu'ils disaient c'est pas bon. Avant de manger, hein, parce qu'ils trouvaient que c'était pas beau et qu'ils voyaient, voilà. Et c'est vraiment une question d'habitude, de sensibilité, d'état d'esprit et de mentalité. Donc je crois que là aussi aujourd'hui on a les choses pour avancer doucement, mais calmement, mais sûrement.
Mais à Montoison, le vrai travail commence maintenant. Parce que il y a beaucoup de gens qui attendent ce genre de projet au tournant pour dire « Mais ah, je vous avais dit que ça ne marcherait pas. » Il y a un travail énorme de communication. Il y a vraiment une gestion d'un projet de changement, c'est-à-dire on met en place des objectifs concrets, faciles à communiquer, et on communique sur « Voilà, on n'a pas changé le monde, mais cette semaine, ce mois-ci, on a réussi à faire ça. » Ce mois-ci, on a réussi à faire ça. Il faut communiquer, surcommuniquer avec toutes les parties prenantes pour que chacun y trouve son compte dans les enfants.
Et comment alors changer la donne par rapport à ces 50-50 dont qu'on évoquait tout à l'heure ? C'est-à-dire, c'est votre travail finalement à vous d'aller voir les collectivités, les hôpitaux, les...
Oui, et je pense qu'il faut surtout identifier les craintes, ce qui peut bloquer, ce qui peut les freiner, ce qui est souvent quelque chose qu'ils ont un peu entendu, vu en regardant la télé le soir. Donc nous, on arrive toujours avec du très concret, du vécu local, pour dire, mais venez voir ce qui se passe sur telle ou telle commune et parler avec les élus. Les élus, on fait qu'ils parlent avec les élus. Les parents, ils rencontrent les parents. Hier soir, j'ai animé une session de sensibilisation avec les cuisiniers de quatre cantines. Parce qu'en fait, tout le monde fait la cuisine en même temps. Donc, on ne rencontre pas les gens qui ont le même métier. Donc, il y avait un échange de menus, de recettes, de tuyaux, de comment t'es équipé, quand est-ce que tu commences, tout ça. Donc, il faut mettre les gens ensemble pour qu'ils partagent leur expérience et pour qu'ils apprennent. Parce que sinon, une commune peut être complètement coupée du monde.
D'accord. Bon, je pense qu'on arrive au terme de l'émission, Julien. J'ai pas la montre, mais je crois que voilà. Donc, je vais vous laisser quand même faire un dernier petit tour de table pour, nous faire partager vos espoirs, vos craintes, peut-être par rapport à la restauration collective. Je vous donne la parole, Laurence.
Je pense que c'est plutôt en train de se construire et c'est plutôt positif. Plus les établissements arriveront à définir leurs besoins en produits bio et locaux, plus du coup les producteurs pourront aussi adapter leur production et du coup il y aura moins de soucis dans l'approvisionnement et il y aura vraiment un travail d'équipe qui pourra aller dans le même sens, quoi. Puis avec la participation bien sûr des élus et c'est important d'avoir des gens aussi qui ont réussi et qui peuvent témoigner justement ce que disait... Graham, c'est vraiment d'avoir des modèles, des établissements référents qui peuvent témoigner.
Qui font inspiration aussi.
Voilà, qui donnent un élan aux autres établissements et aux autres communes.
Bon, plutôt positif alors.
Oui.
Graham,
moi c'est plutôt positif, sinon je ne serais pas là. Mais pour moi, l'enjeu, au-delà de la sensibilisation, c'est la logistique. C'est qu'il y ait des liens entre les producteurs et les consommateurs qui nécessitent pas 1000 brouettes chaque matin traverser le territoire. C'est vraiment mettre en place une logistique qui soit efficace pour que le surcoût du produit qui quitte la ferme soit pas trop. Donc c'est vraiment pour gérer les marges.
Donc là, c'est des politiques qu'il faut convaincre de mettre quelque chose en place. C'est des producteurs qu'il faut convaincre de mettre quelque chose en place.
Je pense que tout le monde est convaincu. Nous, associativement, on essaie de mettre en place cette structure parce que c'est pas évident. Et nous, on est persuadé que si on veut vraiment desservir le fin fond des vallées, les petites communes, ça va être plutôt une structure associative qui va trouver un intérêt qui est social aussi bien qu'économique à faire ça. Et là, les politiques nous soutiennent.
Je peux juste rebondir. Il existe quand même une plateforme qui est existante aujourd'hui. Voilà, Vectabio, qui est basée à Livron, est quand même là aussi pour ça. Et c'est quand même, justement, au niveau logistique, ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire. Et du coup, c'est important aussi de pouvoir travailler avec eux.
Hugues, un mot de la fin.
Alors, juste par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant justement parce qu'on voit qu'il y a la logistique, il y a les outils qui sont mis en place, il y a une volonté politique de soutenir, mais je crois que de toute façon, les élus, ils sont là pour accompagner les projets et les projets, ils n'iront que s'il y a la population qui pousse. Et donc, c'est très bien qu'on finisse par les parents d'élèves parce que c'est les parents d'élèves qui vont initier justement les repas et la motivation et les élus, ils seront là pour accompagner. Et je dirais aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'accompagnement s'il y a vraiment une volonté forte de la population. Et Biovallée, c'est, c'est faut pas attendre tout du haut, c'est il faut attendre tout du bas aussi. Enfin, et c'est les deux qui se retrouvent.
Jean-Claude, un peu la pression.
5 secondes pour dire que donc les familles et les enfants sont dans l'attente d'une amélioration, et donc allez-y messieurs, il n'y a aucun souci, voilà.
Merci à toutes et à tous d'être restés avec nous pour parler cantine. Merci à Julien et Daniel pour la technique, merci à nos invités, à toutes et à tous, à très bientôt, bye bye.
Merci, au revoir.
Merci.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.